pourriez nous expliquer la journée type,
ouais.
Comment s'organisait votre vie à Taluan
et Kumpata. Alors, à Taluan, c'était les caciques jaunes qui me réveillaient. Alors, ils me réveillaient au début à 6h05, mais après, je me réveillais avant eux. Donc, en général, je me réveillais à 5h30. Là-bas, on se lève tôt.
D'accord.
Parce qu'il fait chaud à partir de 10-11 heures, il commence à faire vraiment chaud. Donc tout le monde, à 5h30, tout le monde est réveillé dans le village. Donc je me levais et j'étais le seul dans le village à avoir l'électricité et l'eau. J'avais honte au début d'allumer la lumière, parce que le soir, il n'y avait que la lumière, c'était que mon logement, quoi. Eux, ils n'avaient pas de lumière. Ils avaient des petites torches sur le front, la frontale. Donc là a commencé la toilette. Alors je peux parler de la toilette parce que il y avait un château d'eau dans le village, un petit château d'eau, sauf que les architectes l'avaient placé sous mon logement. Donc j'avais une salle de bain avec tout ce qu'il faut, sauf l'eau, elle montait pas. Voilà. Donc j'allais chercher l'eau en bas, je la remontais avec des seaux, et puis j'ai appris à me laver d'abord à la casserole. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je consommais trop d'eau parce qu'il fallait la porter, l'eau. Donc j'ai commencé à faire attention à la consommation. Et donc je me lavais à la bouteille. Et ça, je conseille la douche à la bouteille. C'est autre chose que la douche parce que quand on se verse une bouteille sur soi, on ne contrôle pas l'endroit où ça va. C'est complètement aléatoire. Et ça, pour moi, c'était... j'adorais ma douche du matin. Voilà. Et ensuite, je partais à l'école. Donc, je préparais la classe. Je préparais les tableaux. Parce qu'au début, je préparais les tableaux le soir. Enfin, avant qu'il fasse nuit, parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans l'école. Donc, je préparais les tableaux. Et les élèves attendaient que je m'en aille. Ils montaient en classe parce que tout est ouvert là-bas. Il n'y a pas de porte. On rentre comme ça. Et ils prenaient leur cahier et puis ils faisaient le travail du lendemain. Moi, quand j'arrivais le matin, ils avaient déjà fini le travail. Bon, alors des fois, il y avait quand même des consignes à respecter, donc qui étaient orales. Donc du coup, après, je préparais les tableaux le matin. Donc je faisais classe jusqu'à 13 heures. Je mangeais, je faisais ma sieste. Et ensuite, je partais en forêt avec les élèves ou je partais en kayak. Donc une des premières choses que j'ai achetées, c'est un kayak. Voilà, eux, ils étaient avec leurs petites pirogues en bois ou certains montaient dans le kayak. Et puis ensuite, je retournais en classe et puis je corrigeais les cahiers. J'attendais qu'il fasse moins chaud, quoi. Donc je retournais en classe vers 17h. Et puis je corrigeais les cahiers, je préparais la classe. Et puis la soirée arrivait, la nuit tombait vers 18h30, 18h45. Et la nuit noire, c'est-à-dire, c'est pas comme ici où le crépuscule il dure longtemps. Là-bas, en 5 minutes, il fait nuit. Voilà. Et il fait nuit, mais il y a plein de sons. Ça n'arrête pas. Donc là, il y a surtout les insectes. Et là, soit je lisais, soit je regardais des films. J'avais apporté des films, j'avais apporté des podcasts. Internet, ça fonctionnait très, 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 très mal. Ah oui, quand j'étais directeur d'école là-bas, ça n'a rien à voir avec un directeur d'école en Ille-et-Vilaine. Le téléphone ne fonctionnait pas. De toute façon, il n'y avait pas de téléphone. Internet, ça fonctionnait un peu l'après-midi de temps en temps. Le courrier, c'était l'horreur. Un courrier, ça met entre une semaine et 8 mois pour arriver, donc, quand il arrive. Et donc, si vous voulez, le travail de directeur était assez tranquille. On peut dire ça. Les réunions, il fallait que je prenne la pirogue. Donc, je partais pour un jour, deux jours, des fois pour 3 jours, pour une réunion. Donc j'allais pas à toutes les réunions parce que voilà, je pouvais pas abandonner mes élèves.
En tant que directeur d'école, vous aviez du coup des collègues,
oui,
avec qui vous travailliez. Le nombre de classes?
Alors en Tekumpata, j'ai passé 4 ans, il y avait 4 classes, une maternelle et 3 élémentaires. Et puis à Taluan, il y avait 2 maternelle et 3 élémentaires. Donc j'avais des collègues de métropole. On était 3 de métropole. Il y avait 2 Martiniquais. Et ensuite, dans chaque école Wayana, il y a un professeur de Wayana.
D'accord.
Qui est Wayana. Mmh. Voilà, donc les élèves de maternelle jusqu'en CP ou CE1, des fois CE2, ils ont des cours de Wayana tous les jours parce que les élèves, quand ils arrivent, ils ne parlent pas français. Donc quand vous êtes métropolitain et que vous avez des élèves qui ne parlent pas un mot de français, vous êtes plutôt mal. Donc il y a justement ce professeur qui fait la jonction. Voilà. Et après, tout l'autre personnel de l'école, que ce soit le personnel d'entretien ou bien la personne qui s'occupait des élèves avec un handicap, eux, ils étaient Wayana. Voilà.
Très bien. Vous parliez de déculturation, comment accueille-t-il ou pas l'enseignement français voilà, quel est le rapport entre la préservation d'une culture Wayana et le rapport avec ce qu'apporte l'éducation nationale et le contact avec la culture européenne voilà.
Oui. Alors, en fait, la toute première école qui a été créée, c'est dans les années 70 à Antequmpatha. Elle a été créée par un monsieur qui s'appelle André Cognat. Alors là, il y a de quoi faire une émission entière sur lui. Donc, je fais un petit résumé condensé. C'est un Lyonnais, il avait une vingtaine d'années. Il est parti à Maripasoula pour filmer les Wayanas. Il trouve une pirogue. À l'époque, il n'y avait pas de moteur, donc tout ça, c'était à la rame. Et puis, il commence à remonter vers l'île de Twankey. Et la pirogue se renverse. Donc, il perd absolument tout. Ce qui lui restait, c'était simplement son short, parce voilà, il n'avait qu'un short. Donc, les Wayanas, ils l'ont quand même accueilli, parce qu'ils étaient un peu gênés. Il n'avait plus rien. Et il est resté. Voilà, il est resté toute sa vie chez les Wayanas. Alors, de temps en temps, il allait en métropole travailler pour gagner de l'argent et y revenir. Il a appris le Wayana, il parle très bien Wayana, et puis c'est devenu un défenseur des Wayana. Et c'est lui qui a créé le village d'Antequmpatha. Antequmpatha, c'est une île, mais il n'y avait rien. Et donc, comme il commençait à y avoir de plus en plus de monde à Taluen et à Twankey, il a proposé à une famille de partir à Antequmpatha. Donc ils sont partis. Et là, il s'est dit, bon, maintenant on n'a plus le choix. Ils sont en route vers l'intégration. Donc, il va falloir que l'intégration se passe le mieux possible, quoi. C'était son objectif. Et donc, il a construit la première école, mais pour les adultes, pour leur apprendre à lire et à écrire en Wayana. Il n'y avait pas d'alphabet, donc ils ont utilisé l'alphabet latin. Ils l'ont un petit peu modifié. Il y a des lettres qui servent à rien, et puis il y a des accents qui ont été rajoutés pour certains sons. Et puis ensuite, avec ces adultes-là, il a réussi à en prendre un qui est devenu enseignant de Wayana. Et il a créé la première école pour Wayana en Wayana. Et il leur a appris à lire en Wayana. Alors ça, au rectorat, c'est pas du tout passé. Parce que qu'on apprenne à lire à des élèves, c'est bien, mais c'est en français. Donc le rectorat, il a décidé à ce moment-là d'ouvrir la première école en pays Wayana pour enseigner en français. Et André Cognat disait, non, il faut faire le CP en 2 ans. Ils sont jamais allés à l'école, donc c'est pas la peine de rentrer tout de suite dans le moule français. Il faut qu'ils fassent la première année en Wayana pour apprendre à lire et à écrire en Wayana, et puis après, ça sera en français. Mais l'école française, c'est pas ça, c'est on apprend à lire et à écrire en français. Bon, de toute façon, ils mettent 2 ans aussi, parce qu'ils apprennent le français en même temps, donc c'est difficile, hein. Voilà. Et puis, en fait, par rapport à l'école, ils trouvent que c'est bien que leurs enfants aillent à l'école. Par contre, s'ils sont obligés de s'absenter une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour aller faire des courses, ben, ils emmènent les enfants et puis ils partent, mais on ne sait jamais quand ils reviennent. Parce qu'ils ont assez d'argent pour partir. Mais Alors quand je dis partir, ils peuvent aller au Suriname, par exemple, aller voir de la famille. Il y a 2 jours de pirogue pour y aller, donc ça coûte cher. Et puis une fois qu'ils sont là-bas, ben, il va falloir qu'ils chassent et qu'ils vendent le gibier pour pouvoir revenir. Donc ils peuvent être absents longtemps. Ça ne les dérange pas. Le collège a été plus difficile parce que ça se passait mal. Le collège a été une mauvaise expérience pour beaucoup d'élèves. La première chose, c'est que quand ils reviennent le premier mois, ils reviennent une fois par mois, ils ont perdu je ne sais pas combien de kilos. Moi, j'ai complètement oublié de les peser avant qu'ils partent et de les peser quand ils revenaient de la première fois, quoi. Parce qu'ils mangent de la nourriture qu'ils ne connaissent pas. Ils découvrent le vol, la violence, le racket, Tout ça, ça n'existe pas dans le village. Le village, c'est une espèce de c'est une bulle où tout se passe bien, et puis ils se retrouvent dans un monde de violence tout d'un coup, et ils ne sont pas préparés à ça. Donc le collège, ça a été difficile pour beaucoup de collégiens. Il y en a qui partent en pleurant, il y en a qui ne veulent plus y aller, il y en a qui n'y vont plus, qui arrêtent leurs études au collège. Et puis après, pour le lycée, ils sont très fiers d'aller au lycée, parce qu'ils vont à Cayenne, ils prennent l'avion, pour la première fois de la vie. Après, ils vont prendre le taxi. C'est la révolution pour eux. Et puis, ils ne portent plus le pagne. Ils sont habillés en civil. Et ils découvrent l'Occident. Et ça donne, par exemple, moi, j'avais un service civique qui avait 20 ans. Et lui, son rêve, c'était d'avoir un 4x4 noir, alors qu'il n'y a pas une seule voiture en village amérindien, il n'y a pas de route. Mmh. Voilà. Mais lui, son rêve, c'était ça. Alors le problème, c'est que donc il y a ces rêves qui sont en train d'arriver de l'Occident. Et puis depuis 2019, l'électricité est arrivée. Et là, ça a été une révolution, parce qu'il y a la télé qui est arrivée avec, les smartphones, Internet. Et c'est terrible, parce qu'eux, ils prennent tout au premier degré. Ils regardent tout ce qu'il y a sur Internet, dont les films porno, et puis ils se prennent tout au premier degré. Je me rappelle, il y en avait un, c'était un lycéen qui est venu me voir, et il me dit « T'as déjà vu une sirène ?» Alors je dis « Dans les films, oui, mais ça n'existe pas. » Les sirènes disent « Si, ça existe, il y en a sur YouTube. » Bon, voilà, donc il faut leur apprendre tout ça. Donc à l'école, moi, je travaillais aussi beaucoup sur l'image. On regardait des films toutes les semaines, justement pour apprendre à faire la différence entre le réel et la fiction. Voilà. Et donc l'intégration, les jeunes sont volontaires. Ils ont envie de connaître le monde occidental. Ça les attire. Mais sauf que c'est un miroir aux alouettes. C'est-à-dire qu'en Bretagne, tout le monde n'a pas une villa avec piscine, une Mercedes et un coupé noir, quoi. Voilà. Mais eux, c'est ça, le monde occidental. Et puis, quand ils sont là-bas, s'ils arrivent jusqu'au bac, malheureusement, ils ne peuvent pas rester, parce que la vie à Cayenne, elle est chère. La vie en Guyane est très chère. Hein. Une bouteille d'eau, c'est 3 euros, pour avoir un ordre d'idée. Hein. Donc, ils ne boivent pas l'eau en bouteille. Il n'y avait que moi qui buvais ça. C'était un signe extérieur de richesse. Et donc, ils ne vont pas pouvoir rester à Cayenne. Et ils vont revenir au village. Et là, ils n'ont plus envie de vivre aussi durement que leurs parents. Parce que les parents, quand ils vont dans les abatis en forêt pour cultiver le manioc, c'est difficile. Il fait chaud. Voilà. Et donc, il y a, par exemple, il y a un chiffre qui est difficile à entendre, mais le taux de suicide chez les moins de 30 ans, chez les Wayana, il est 20 fois supérieur à celui de la métropole. Donc ça donne un aperçu du mal-être actuel.
Un choc de culture très fort.
Oui, il y a un choc de culture. Et les traditions sont en train de se perdre, sauf la langue. Là, ils s'accrochent à la langue, ça. Donc tout le monde parle Wayana. Mais par exemple, il y a une cérémonie qui est très importante chez eux, c'est le maraké. Le maraké, on le passe la première fois quand on sort de l'adolescence, qu'on soit un garçon ou une fille. Et puis on peut le passer 7 fois au cours de sa vie. En fait, c'est pour se remettre les piles à zéro, quoi. C'est la cérémonie de la renaissance. Eh bien, le dernier, il a eu lieu en 2005. D'accord. Il n'y en a plus depuis. Alors qu'il pouvait y en avoir presque tous les ans. C'est une cérémonie qui coûte très cher, parce qu'il faut préparer les parures. Il y a énormément d'invités. Il y a des centaines et des centaines d'invités qu'il faut nourrir pendant plusieurs jours. Et puis surtout, ceux qui vont passer la cérémonie, si normalement ce sont les lycéens d'aujourd'hui qui doivent la passer, ils ont entre 6 mois et 1 an de préparation. Donc on voit mal le proviseur dire « bon, ben d'accord, tu vas être absent 1 an et puis va préparer ta cérémonie ouais. ». Donc pour l'instant, il n'y a plus de cérémonie. Ils aimeraient bien en faire une, mais il n'y a pas de postulant. Et ça, c'était vraiment la cérémonie Wayana. C'est la base des Wayana.
De la culture Wayana.
Et puis, ce qui est en train de disparaître aussi, ce sont les chamans. Tous les chamans que moi, j'ai connus, ils sont morts. Et il n'y a pas de remplaçant. Parce que pour devenir chaman, la formation, elle débute quand on est enfant. Donc, ça veut dire un enfant qui ne va pas à l'école, qui va aller en forêt.
D'accord. C'est une culture, pour le coup, animiste ? Vous parlez de chamans ?
Oui. Alors, initialement, oui. ils étaient. Il y a les esprits, ils ont un dieu qui s'appelle Kouyouli. Après, il y a des esprits, il y a différents strates d'esprits. Alors, ça, ils y croient dur comme fer. Mais aujourd'hui, il y a très peu d'animistes. Il y a surtout des évangélistes, les évangélistes américains qui sont venus. Il y a quelques catholiques, mais ils ne sont pas très nombreux. Et puis ensuite, il y a quelques animistes. Mais par contre, quelle que soit la religion, ils croient tous aux esprits. Ça, il n'y a aucun souci. Hein. Alors, par exemple, l'évêque de Cayenne, lui, il était allé les voir. Il leur avait dit, écoutez, moi, je vous apporte l'évangile, mais je respecte vos croyances. Si vous voulez faire vos cérémonies, vous faites vos cérémonies. Alors que les évangélistes, ils leur disent, il ne faut plus aller voir le chaman, il ne faut plus vous habiller avec un pagne, il ne faut plus faire ci, il ne faut plus faire ça. Et ils leur interdisent de faire plein de choses. Et du coup, comme la majorité des... Et ils leur mentent. Par exemple, pour le passage de l'an 2000, ils leur ont dit « la forêt, elle va brûler. Donc ce sera l'enfer. Et si tu veux que Dieu vienne te chercher, eh ben, il faut que tu te fasses baptiser. » Donc il y en a plein qui sont devenus évangélistes à ce moment-là. La forêt n'a pas brûlé. Voilà. Pour le vaccin du Covid, ils leur disaient « si tu te fais vacciner, tu auras le signe du diable qui va être sur ton épaule. » Donc moi, je me suis déshabillé devant eux, je leur ai montré, je dis, regardez, j'ai pas le signe du diable. Puis je leur disais, bah, si vous voulez, je peux même vous montrer mes fesses, hein. Vous verrez qu'il n'y a pas... voilà. Donc c'est difficile parce que les évangélistes mentent. Voilà.
Vous parliez des chamans, pour oui. le coup. Qu'est-ce qu'ils représentent, justement, dans la culture
voilà. ouais.
Quand vous parliez des esprits, à l'instant
oui.
Qu'est-ce que les esprits pour les Wayana ?
Alors, là, justement, à côté de nous, il y a ce qu'on appelle...
Voilà. Ouais. Sur cette question des esprits, juste dire que nous sommes chez vous.
Ouais.
Il y a énormément d'objets que vous avez pu ramener de Guyane. Je vois peut-être des lances
Non, c'est des flèches.
Des flèches, d'accord.
Ce sont des flèches, ouais. Elles sont immenses, les flèches. Ouais. Les lances, elles sont là-bas. Mais ça, ce sont des flèches.
Des flèches qui font 2 mètres de haut.
Donc vous parliez... Alors,
oui.
Voilà. Donc, voilà un exemple d'objet que vous avez pu ramener parmi énormément de...
J'ai rapporté 4 mètres cubes de souvenirs.
De souvenirs. Et donc, vous nous parliez des esprits
oui.
et d'un objet qui symbolise notamment le...
enfin, voilà. ouais, l'importance des esprits chez les Wayana. Alors ça s'appelle un ciel de case. Donc, pour le décrire, c'est un cercle qui fait un peu plus d'un mètre de diamètre. Celui-là, il ne doit pas faire 1 mètre, je pense. Et qui est suspendu à l'horizontale au centre du Tukushipan, donc au centre du village. Et sa fonction, c'est de protéger tout le village des mauvais esprits, parce qu'il y a des bons et des mauvais esprits. Donc là, sur ce ciel de case, eh bien, sont symbolisés les esprits, les bons esprits qui vont protéger le village.
Alors, quels sont-ils ? Ah, ce sont des... C'est représenté notamment par des tortues, des Alors, poissons.
Il y a une tortue, il y a 2 poissons, il y a un tamanoir... Et bon, il y a un oiseau, là, il y a le crapaud. Mais ces deux-là, par exemple, ça, on ne voit pas du tout ce que c'est. Donc, c'est la chenille et le jaguar, qui sont les 2 esprits les plus puissants chez les Wayana. La chenille, c'est l'esprit le plus puissant. Voilà.
D'accord.
Et donc, ils vont avoir ces esprits. Et puis, il y a des esprits dans l'eau, les hippos. Et dans ces esprits-là, il y a des gentils et des méchants. Mais quand les esprits sortent, par exemple, moi, j'allais me baigner tous les jours. Je faisais de la natation en saison sèche parce qu'en saison des pluies, il y avait trop de courant. Et ben, c'est arrivé plusieurs fois que les villageois m'appellent en me disant « Yann, il ne faut pas que tu te baignes aujourd'hui. Il y a des hippos, là. »
Et alors, comment les perçoivent-ils ?
Ah ben ça, je ne sais pas. Là, eux, ils sentent ces choses-là. Ils savent qu'il y a un esprit qui est là. Une autre fois, on était partis en expédition. Et puis, je dis, bon, ben, je vais aller me baigner. Et il me dit, non, et pour te laver, tu restes sur la branche, mais tu ne rentres pas dans l'eau. Il y a des esprits. Mm-hmm. Alors, non, il ne m'a pas dit, il y a des esprits. Il m'a dit, il y a des poissons. Il y a des poissons carnivores. Mm-hmm. Mais en réalité, c'était à cause des esprits. Mais il voulait pas me dire, c'était, on se connaissait pas beaucoup à cette époque-là, et il savait pas comment j'allais le prendre s'il disait qu'il y avait des esprits. Il savait que je le croirais pas et que j'irais dans l'eau, donc il m'a dit qu'il y avait des poissons carnivores. Et puis après, il m'a expliqué qu'en fait, non, dans cet endroit-là, il y avait des esprits.
Ces esprits sont donc liés à des animaux. Là, par exemple, dans la représentation qu'on a
Alors,
là.
ben, c'est-à-dire qu'ils ont une représentation. Alors, souvent, c'est des animaux, ouais, mais ils peuvent être très, très gros. Il y a des esprits qui peuvent avoir la taille d'une maison, par exemple. Ou des esprits qui peuvent manger plusieurs personnes. Donc, il y a des esprits qui mangent les personnes, il y a des esprits qui vont rentrer dans votre corps. Et puis, il y a les esprits des morts, par exemple, quand quelqu'un meurt. Bah, son esprit, il sort du corps, mais il veut pas partir du village. Donc, il reste dans le village. C'est là que le chaman intervient pour le faire partir. Et donc, ce qu'il veut, c'est rester avec ses proches. Donc, il s'accroche à eux avec les cheveux. Donc, eux, ils se rasent le crâne. Quand vous voyez un Wayana avec le crâne rasé, c'est qu'il a perdu quelqu'un de sa famille. Et avec les suicides qui sont assez nombreux, il n'y a plus beaucoup de Wayana avec les cheveux longs. Ils ont souvent les cheveux rasés, ouais. Et donc, il se rase le crâne. Et moi, j'ai une anecdote. Une fois, je voulais aller rejoindre un hameau. Et comme c'était la saison des pluies, le chemin était complètement inondé. Il fallait que je passe par la forêt. Et il faut pas aller en forêt, justement, parce que l'esprit, il traîne partout. Donc, eux n'ont absolument pas le droit d'aller en forêt quand il y a un mort, tant qu'il n'est pas enterré. Et puis, j'en parle avec un élève. Je dis, oh là, je suis embêté parce que je voulais aller à Yao Yao. Et je peux pas y aller. Et il me dit, ah, mais non, mais toi, t'es un blanc, ils s'en foutent complètement de toi, l'esprit. Et en fait, c'est vrai, il va voir que les gens qu'il connaît, l'esprit du mort. Et donc, le chaman, il est là pour aider l'esprit du mort à partir, pour l'emmener sur la strate au-dessus. Voilà.
Donc le chaman, d'une certaine manière, c'est un peu un guide parmi ce monde fait d'esprits
Oui.
qui environne ce monde environnant qui n'est pas simplement oui, qui est peuplé aussi d'esprits
Oui, il y a des
dans la
esprits
culture
partout.
wayana.
Oui. Et alors, il y a, en fait, il y a 5 ou 6 degrés d'esprit au-dessus de nous. Il y a le monde des hommes. Et puis après, il y a différentes strates. Et le chaman, il est capable de voyager dans les 2 strates supérieures. Après, il peut monter dans les autres strates d'esprit, mais il ne peut pas revenir. Et donc, les chamans, ils sont capables de voyager et d'aller rencontrer d'autres chamans qui voyagent aussi dans ce monde des esprits. C'est pour ça qu'ils sont capables de dire. De raconter des événements qui se passent à plusieurs centaines de kilomètres, parce qu'ils vont rencontrer un chaman qui vient de là-bas. Et ils peuvent avoir une vie dans ce monde des esprits. Voilà. Par exemple, une fois, il y a un enfant qui s'est perdu. Alors, je suis raconté qu'ils avaient un GPS interne, là, et qu'ils se perdaient jamais. Il y a un enfant qui s'est perdu en forêt. Il était parti chasser avec son père, puis il marchait pas assez vite. Parce qu'en fait, en forêt, il marche pas, il court. Et puis nous, on ne peut pas. Hein. Et donc le gamin, il était petit, il devait avoir 7 ans à l'époque. Et donc son père dit, bah, écoute, tu vas rentrer à la maison, tu vas tout droit, tu tournes après l'arbre. Bon, sauf qu'il y a des arbres partout, il s'est perdu. Et donc il est resté un jour, 2 jours dans la forêt. Et donc les parents ont appelé les chamans. Alors ils en ont pris 3 chamans. Et les chamans se sont concertés et ils ont dit, il est là. Et effectivement, le gamin était là. Et je l'ai rencontré, ce gamin, c'était mon voisin. Et il s'appelait Yann aussi, parce que c'est un prénom Wayana.
Qu'est-ce que cela vous inspirait, vous, en tant que Européen, avec une culture qui est la nôtre, peut-être rationaliste
Ah
ou
ouais.
cartésienne, on va dire, face à une culture qui croit justement dans les esprits?
Alors, malheureusement, j'ai pas vraiment, j'ai pas connu, j'ai connu qu'un seul chaman, mais qui parlait pas français, donc les échanges étaient assez limités. Mais j'ai pu parler avec les fils des chamans qui m'ont raconté plein de choses. Donc, moi, j'y crois à tous ces esprits-là. Alors, bon, il y a des esprits, j'y crois moins que d'autres, mais c'est vrai que c'est troublant ce qu'ils racontent, parce qu'il y a eu d'autres histoires. Et. Bon, ben, je pense que en fait, ils ont des connaissances que nous, on n'a pas du tout. Alors, la communication avec les esprits, mais la communication avec la nature, parce qu'ils ressentent plein de choses que nous, on ne ressent pas. On est devenu complètement stérile. Et donc, les esprits, ça fait partie de ces choses-là. Et je pense que bah, nous, on n'est pas du tout prêts. On a oublié tout ça. Sans doute qu'avant, on devait savoir le faire. Et puis, on ne sait plus. Mais je pense qu'il y a quelque chose, quoi. Et malheureusement, c'est en train de disparaître, puisqu'il n'y a plus de chaman. Alors, il n'y a plus de chaman en Guyane. Mais il y en a encore au Brésil. Des chamans Wayana. Voilà. Et il y en a aussi au Suriname. Au Suriname, par exemple, ils ont, y a un centre de santé chamanique avec le chaman. C'est, les gens, ils vont voir le chaman. Alors, ce qui s'est passé au début, quand ils ont installé le dispensaire... Non, avant le dispensaire, ils ont installé un hôpital à Maripasoula, donc il y a à peu près 2-3 heures de pirogue pour y aller. Et bah, ils ne voulaient pas y aller. Et donc André Cognet leur disait « Non, là, tu es vraiment trop malade, il faut que tu ailles à l'hôpital. » Et donc, ils partaient à l'hôpital vraiment que, quand c'était la fin. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Ben, souvent, ils mouraient à l'hôpital. Donc, c'était bien la preuve que la médecine des Blancs, elle ne fonctionnait pas. Alors que maintenant, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord au dispensaire et si ça ne marche pas, ils vont voir le chaman.
Donc, pour revenir juste à ce... Comment appelle-t-on ça?
Un ciel de case.
Un ciel de case qui, donc, a pour fonction de protéger...
Le village. Des mauvais esprits. Donc, grâce à moi, Longonier et Becherel sont protégés des mauvais esprits. Qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson? Oh non. No longer captive to.